Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis!
Salut Alex!
Oh là là. C'est pas
monsieur Alex, monsieur Vizorek!
Ouais. Pourquoi?
Bah, t'étais dans les hautes sphères vendredi!
C'est le mercato, monsieur veut aller sur France Culture!
Mais qu'est-ce que j'ai fait?
T'as fait ton intello avec Raymond Depardon sur le Japon!
Ah oui! On a l'impression que le Japon, c'est un peu le pays justement des oppositions, parce que vous dites on est en 2050, et puis quand vous faites une demi-heure de route, vous allez sur la tombe de Ozu, le cinéaste.
Ah non, bien sûr. Préviens-nous quand c'est comme ça, parce que là, c'est un choc! Ouais, hein.
Disons que ça nous change de tes blagues de tub!
Ça va, si on peut pas élever le niveau de temps en temps!
De temps en temps, je dis pas, mais enfin là, tu t'arrêtais plus!
Ce plaisir un peu du Lost in Translation.
Oh là, plaisir du Lost in Translation. C'est aussi agaçant que Manoukian qui parle de jazz.
Non, ça va, calmez-vous. Bah, si vous n'arrivez pas à vous mettre à la hauteur et à la sagesse du nipophile que je suis.
Ah, ça y est, un nipophile maintenant.
Bah, oui.
C'est quoi? C'est un type qui est attiré sexuellement par les hippopotames,
On dirait une vanne de moi. Franchement.
Que tu te la pètes, c'est une chose, mais enfin, de là à conseiller Raymond Depardon sur la photographie.
J'en ai fait qu'une. Très vite, top ça, tac.
Sinon, mettez en mode rafale. Je donne des petits conseils ici.
Oui, bah voilà, bah il a été surpris, je peux te dire.
Si on peut pas aider les gens, vous savez quoi? Moi, je vais aller sur France Culture. Ouais. Parce que moi, j'ai une super idée d'émission à proposer. Ouais. C'est sur le cinéma contemporain asiatique et son impact sur les sociétés insulaires.
Attends, pour ton entretien d'embauche, moi, je propose que tu leur donnes ça comme démo.
C'est malin.
Mais coupez-moi ça là. C'est plus par Jupiter, c'est par Vizorek.
Vizorek au Japon, Vizorek chante Michel Thor, Vizorek à la mer.
Désolé. Parce que comme le disait Aristote, l'âme ne résonne jamais mieux quand elle s'isole par rapport. Il y a un truc de corps.
Il y a un truc avec le corps. Voilà. Sinon, sur Energy 12, ils recrutent, je pense. Bonjour la France Inter, nous sommes le lundi 25 juin et voilà donc déjà 368 jours que Myriam El Khomri prend de nouveau le métro. Alors courage à toi Mimi. Et voici les trois informations.
On l'avait oublié Mimi.
Oui, mais
ça fait quelque chose.
Dans le métro avec son petit passe Navigo, alors on l'embrasse. Et voici les trois informations qui vont devoir changer à République. Emmanuel Macron sera reçu au Vatican demain matin où le pape lui remettra le titre de chanoine de Latran, titre qu'il a accepté contrairement à François Hollande ou Mitterrand quand elle allait le chercher plus discrètement. D'où cette question, Macron serait-il un petit peu catho?
Nous sommes sauvés! Je vois le Christ!
Le jeune est déconsidéré. La politique voudrait qu'il s'engage, mais dès que c'est le cas, le jeune est rabroué. Où et comment la jeune génération peut-elle s'exprimer? Car c'est aussi comme ça qu'elle peut s'éduquer.
Dolto et compagnie, là, ça fait des ravages épouvantables. Ah, mais des générations de malpolis égocentriques.
Alors que Paris débranche ses autolibes et que les Vélib ne fonctionnent plus, Paris lance son service de trottinette électrique. Ça va encore nous mettre une belle ambiance sur la voie publique, cette affaire.
Paris, c'est pour les bagnoles, il y a la marque des vélos.
Lui, il empruntera la trottinette électrique dès qu'elle sera disponible en version avec chauffeur.
Très bien.
C'est Alex Vizorek.
Bonjour Charlie de Badenacker, il est temps qu'on se sépare pour les vacances. C'est la dernière ligne droite, alors figurez-vous quand même, dans ma grandeur, je vous ai apporté une belle équipe.
Une belle équipe,
s'arrêter là. À 17h20, celle qui est venue de loin pour vérifier que les Français ont de l'humour, autant vous dire qu'elle n'est pas prête de retourner au Burkina. C'est Rukyata Ouedraogo, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour tout le monde.
De quoi on va parler?
Aujourd'hui on va parler du sosoga. Ou comment terminer le toit de sa maison sans dépasser un seul copec.
Conseil. À 17h30, celui qui n'a plus qu'une semaine pour venir vous emmerder dans la rue avec son micro. Donc cachez-vous encore 5 jours et puis ce sera la libération. Bonjour Guillaume Meurice.
Non mais je le ferai pendant les vacances mais en bénévole. Moi j'ai contacté aujourd'hui Aloïs, il est chef de mission sur l'Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée, qui a d'ailleurs repris la mer après sa croisière forcée par Matteo Salvini et Emmanuel Macron.
C'est une croisière, la croisière s'amuse.
Oui, on va bien rigoler. Merci les fachos.
Et enfin à 17h40, celle qui se réjouit de l'arrivée des vacances car elle va pouvoir plonger dans sa piscine. Une piscine, je rappelle, c'est un grand verre de rosé avec beaucoup de glaçons. Merci, bisous, merci Juliette Arnaud.
Merci, bonjour Alex, bonjour tout le monde.
De quoi est-ce qu'on va parler?
Alors j'ai un livre qui est extrêmement joli à l'extérieur et à l'intérieur.
On dirait moi.
Ah, c'est marrant, j'avais dit le Grinch.
Mon Dieu, vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Alors, je me tourne vers celle qui bénéficie d'un plan d'arrivée volontaire. Vous accumulez les petits boulots pour mener à bien votre licence d'Infocom. Vous êtes notamment concierge pour Airbnb ou Mère Noël en mini-jupe pour Coca-Cola. Vous rédigez un blog, vite repéré par un éditeur, et vous publiez un essai, Les Affamés, sur les difficultés de la jeunesse à affronter un monde professionnel bâti par la génération précédente. Vous adaptez ce livre au cinéma. Le film s'appelle Les Affamés. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Léa Prédeval.
Oh la chance.
J'ose pas le dire trop fort.
France Inter.
Et pourtant c'est elle.
Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Léa Prédeval.
Merci beaucoup.
Jeune auteure et jeune réalisatrice d'un film sur les jeunes qui s'appelle Les Affamés, qui sort en salle mercredi, qui est une adaptation de votre livre. Il s'agit d'une jeune fille qui est au départ stagiaire, elle a quoi, 21 ans. Elle se sépare de son amoureux pour aussi se réaliser elle-même, autrement que par le couple. Elle arrive dans une grande colocation avec plein de jeunes de son âge et là elle se rend compte qu'elle n'est pas la seule à galérer. Il y a le livreur de pizza, il y a l'opérateur téléphonique, le graphiste qui colorie des jeunes nageoires de poissons toute la journée. Et elle prend conscience de ça, elle veut créer un collectif, organiser un coup de gueule avec eux. Et au début, ils la suivent. Trois petits points. Alors, vous avez d'abord écrit un blog. Vous en avez fait un essai. Le film, pourquoi le film ? C'est pour prolonger le combat et lui donner une dimension artistique ?
Alors oui, mais c'est surtout parce que je me suis rendu compte, on s'est rendu compte avec mes producteurs que le livre faisait écho chez les jeunes, mais aussi chez leurs parents et aussi chez leurs grands-parents. Et quand on a réalisé que en fait la jeunesse touche tout le monde, ouais, parce qu'on a tous autour de nous, que ce soit donc un enfant ou un neveu ou un cousin ou un petit enfant qui est concerné par cette situation et qui est complètement perdu et qui a besoin d'aide et qui a besoin de soutien, de reconnaissance. Et donc voilà, et donc effectivement, il y avait vraiment matière à faire un film et c'est ce qui s'est passé.
Mmh. Alors, vous confiez le rôle principal, le rôle de la meneuse aussi, à Louane, la fameuse Louane qu'on connaît très bien, qui est ultra populaire auprès des jeunes. Donc, au-delà de cette démarche, il y a aussi un peu une démarche peut-être sociale, politique, de se dire que c'est quelqu'un qui fédère beaucoup. Vous mettez des espoirs dans le fait qu'elle puisse toucher un large public et que cette révolte, parce qu'il y a une révolte dans votre film,
bien sûr,
touche, fasse une prise de conscience.
Oui, 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 en effet, clairement, Louane est appréciée des plus jeunes comme de leurs parents et de leurs grands-parents. Donc ça revient, on revient à ce sujet. Mm-hmm. Et ce qui était important surtout, c'était qu'elle avait très envie de défendre ce propos. Alors on peut se demander comment elle peut le défendre, sachant qu'elle ne l'a pas vécu. Ouais. Mais pour moi, c'est d'autant plus fort qu'elle ait envie de défendre quelque chose qu'elle n'a pas vécu, parce que clairement, c'est pour les autres qu'elle le fait, pour ses amis, pour sa famille, parce que maintenant que je les connais un peu tous, je sais qu'ils sont dans ces situations-là. Ouais. Et donc, et qu'elle ait autant aimé le scénario et qu'elle ait voulu s'emparer du sujet. Et ensuite, ce qui s'est passé avec la coloc, avec les comédiens, que tout ça ait vraiment pris, et que ça, je pense que ça se voit dans le film, c'était mm-hmm. très important pour nous tous.
Est-ce que vous avez l'impression, parce que quand le livre est sorti, mm-hmm. On vous a invité sur tous les plateaux en tant que représentante des jeunes.
Mm-hmm.
Non, c'est vrai. Est-ce que vous avez l'impression, parce que c'est vrai que les fachos ont des représentants, les travailleurs ont des représentants, même les étudiants ont des représentants, mais le jeune, il n'y a pas vraiment de voix. Et est-ce que c'est ça qui manque peut-être ?
Où est le jeune, à part sur 36-15 qui n'en veut ?
Non, alors moi je ne me sens pas du tout représentante d'une génération.
On vous a projeté là-dedans.
Vous avez 27 ans aujourd'hui.
Oui, j'ai 27 ans. De toute façon, ça va passer hein, un moment.
Est-ce que vous sentez représentante des anciennes jeunes.
Non, je pense que oui, effectivement, il y a un problème de visibilité, de correcte visibilité, dans le sens où quand on parle de la jeunesse dans les médias, dans la politique, c'est souvent les mêmes sujets qui reviennent, le chômage, Daesh et le deal, alors qu'il y a quand même d'autres choses, et d'une plus valorisante et de deux réelles. Et ça, c'est très difficile de percer avec ça. On voit comment ont été traités les blocus cette année, il y a 4 ans, il y a 8 ans, il y a 12 ans, enfin, tous les ans depuis mai 68. Donc effectivement, d'être moins méprisé, d'être pris en considération et on revient au film que le reste de la société comprenne que la jeunesse est une classe sociale et une classe sociale économiquement notamment très importante et que si jamais elle s'avérait si elle disparaissait on serait bien dans la merde.
Les jeunes sont partout.
Nous sommes partout
et ils en ont marre d'entendre oh mais tu as le temps, tu verras. passe ton diplôme d'abord et nourris-toi toi-même, bien sûr. Léa Frédéval est avec nous, jeune réalisatrice, jeune auteur. Les Affamés sort en salle mercredi avec Louane Emera, donc avec Fran de Bloc, avec Marc Jarousseau, Nina Mello, Rabanaï Toufella, Bruno Sanchez. On va les citer tout au long de cette émission. Pierre-François Martin Laval aussi, Anne de Petrini. Et on est ensemble jusqu'à 18h par Jupiter.
Scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control, yeah.
Killer's Wheel, Stuck in the Middle with You, sur France Inter, par Jupiter, où les jeunes sont au pouvoir, ça y est. Car Léa Frédéval est avec nous, réalisatrice du film Les Affamés, avec Louane notamment, parce que trouver une comédienne de moins de 25 ans, comment on fait ?
Célèbre, célèbre, parce que sinon il y en a.
Que les gens connaissent et que les gens ont envie de voir.
Et sur lesquels on peut monter un film et avoir peut-être plus.
Bien sûr, il y a aussi ça qui joue beaucoup, parce que Léa Frédéval... On la connaît pas.
Non, on la connaît. Elle gagne à être connue. Léa Frédéval avec nous. Et pour l'entourer, Alex.
Que des jeunes. Du jeune, du Juliette Arnault, du Rocky Attaway Drago, du Guillaume Meurice.
Bien sûr.
Et de l'information.
C'est toujours très jeune, toujours
fraîche. Toute fraîche.
Qui saute pas n'est pas Macron. Qui saute pas n'est pas.
Le journal de presque 17h17.
J'ai sauté, oh mes frères, et je me suis fichu par terre.
Et on commence par les titres.
Édouard Philippe est en visite officielle en Chine.
Oui, on espère qu'il n'est pas allé avec Christophe Castaner, parce qu'on sait ce que risquent en Chine les gentils toutous.
Lors de sa visite demain au Vatican, Emmanuel Macron sera accompagné par Gérard Collomb.
Oui, vu l'état du bonhomme, c'est pas au Vatican qu'il fallait l'emmener, c'est directement à Lourdes.
Et des brèves.
Oui, bah comme c'est la dernière semaine, je voyais pas pourquoi changer maintenant, donc il y aura des brèves.
Ce sera dommage.
Oui,
hein.
Bah oui.
Pour l'an prochain, on verra.
Un espoir.
Mais j'ai quand même un début de réponse. Commençons par la politique.
Oui, avec le coup de gueule de Philippe de Villiers, pour qui la fête de la musique qui s'est tenue à l'Élysée est, je cite, une insulte au cœur de la France.
Oui, mais c'est parce que les joueurs de lutte et de lyre n'étaient pas dispo, alors on a dû prendre des gens un peu mal habillés qui faisaient de la musique électro. Voilà ce qui t'arrive. Voilà.
Heureusement, demain, au Vatican, Emmanuel Macron sera intronisé chanoine honoraire de l'église romaine de Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale du pape.
Ouais, je sais pas si ça va rassurer mon Philippe, parce que après la photo polémique avec les danseurs en barésie, mêlant Macron insiste, il va voir un mec qui porte des robes, ça va l'angoisser, je pense.
Politique toujours.
Oui, Nicolas Dupont-Aignan était vendredi chez Laurent Ruquier, et quand il a expliqué à tout le monde que lui aurait mis les camps de migrants dans les beaux quartiers,
Je pense que si vous viviez à Loly, à Vigneux, un des quartiers les plus difficiles de ma circonscription,
vous
auriez un autre visage.
Vous y vivez, vous?
Non, mais moi, j'ai...
Ah tiens, non, vous non plus. Vous non plus, monsieur Dupont-Aignan. Alors taisez-vous, vous aussi. Mais moi,
j'écoute. Il est chaud, mon Lolo. À mon avis, l'an prochain, il va lui-même remplacer Yann Moix.
Crise migratoire, oui. Justement. Éric Ciotti veut une action concertée, organisée, militaire, de l'Europe contre les passeurs.
Oui, une action militaire, et il sait tout à fait de quoi il parle, lui qui a tout fait pour éviter son service militaire à lui, Éric Ciotti.
En parlant de force de l'ordre.
Oui, Jean-Pierre Pernaut, dans son célèbre 13 heures, a lancé un petit sujet comme il en a le secret.
On évoque souvent dans ce journal la disparition des services publics à la campagne. Mais dans ce village, c'est une gendarmerie qui va fermer. Et les gens adorent leurs gendarmes.
Et les gens adorent leurs gendarmes. On salue les Black Blocs.
Oui. Alors, en Isère, oui. Une fromagerie Lactalis doit faire face à la justice car elle est accusée de polluer une rivière.
Décidément, Lactalis, c'est affaire après affaire. Lactalis, c'est le Nordal-Lelandais de l'industrie agroalimentaire.
Sport avec cette page Coupe du Monde. Oui. L'Angleterre a étrié le Panama sur le score fleuve de 6-1.
Comme quoi, au Panama, on est moins doué pour gérer les placements des footballeurs étrangers quand il s'agit de sport.
Ouais, il y avait également un Sénégal-Islande ce week-end.
Oui, voilà. Excellent match. Et le commentateur de Bein était au taquet quand il trouvait que le Sénégalais manquait un petit peu de force sur la remise en touche.
Une longue touche avec Ndidi. Fortement, là, sur Magnusson. Il faut qu'il prenne du banania, là.
Il faut qu'ils prennent du banania. En même temps, est-ce qu'ils pensaient à mal? Voilà, c'est dans le feu de l'action. Mais comme ça va vite, aujourd'hui, il a reçu quelques tweets de gens choqués. Et donc, après la mi-temps, bah voilà, il a expliqué ce qu'on pensait tous.
Banania, j'aurais pu dire Poulain, Benko, Nesquik, ce que vous voulez. Moi, j'estime que quand on manque de force, c'est ce que l'on prend le matin. Donc, j'ai sorti banania parce que sa touche était ratée.
Voilà. Okay, d'accord.
Et puis, au passage, je vous signale juste que l'un de mes meilleurs amis est sénégalais.
C'est le bingo.
Il nous a fait une Nadine Morano.
On rappelle que c'est la plus mauvaise excuse à donner, bien sûr. J'ai un ami qui.
Voilà. Nous, on a une excellente chroniqueuse noire, on dit nous.
C'est vraiment. Ouais, j'espère qu'elle a pris du bananier ce matin.
Je fais énormément de blagues racistes depuis que je connais Rukiata.
Allez, deux brèves.
Oui, pas de Calais. Un conducteur britannique contrôlé à 265 km/h sur la 26. Alors, oui, c'est pas magnifique partout le Pas-de-Calais, mais de là à rouler aussi vite pour s'en échapper, c'est abusé.
Allez, la dernière.
Oui, à Neuillé-Pont-Pierre en Indre-et-Loire, un chat allume une plaque de cuisson, déclenche un incendie et meurt dans les flammes. Oh, un chat qui commet un attentat. Ta kamikaze, à tous les coups, c'est un chat lafiste.
C'est vrai.
Al-Shaïda n'a pas revendiqué.
Ah, là, c'est la fin de saison.
C'est le combo,
allez,
c'est bon.
Allez. Et donc, le pire vous attend à Foix de Picardie. Car,
c'est vrai. Ces gens ont le droit de rire.
Alex fera ses meilleurs jeux de mots jeudi soir.
Je vois que c'est une bonne idée de faire la promo d'Alex
juste après le 17h17. Le spectacle sera bon. Les Picards, je serai là jeudi.
Léa Frédéval est en notre compagnie. Son film Les Affamés sort mercredi en salle. Nous sommes avec Juliette Arnaud, Rukiata Ouedraogo, Guillaume. Prenez votre respiration et parlons
c'est
de.
C'est le chalafiste, hein, ça.
Parlons de demain matin. J'ai comme l'impression que cette semaine, il y a Frédéric Fromet dans le bureau. J'ai tort.
Pas gentil de dénoncer les gens.
Demain matin, le président de la République sera fait chanoine de Latran, donc Latran, la basilique de Rome. Ça vous fait déjà rire, Léa Frédéval.
Il n'y a pas de blague.
Non, il n'y a pas de. C'est vrai qu'avec chanoine.
Mais à cause de vous, j'ai eu chanoine dans. Peut-être toute la journée.
Très bien. Mais on va en parler justement, on pourrait la faire. Comme il est déjà coprince d'Andorre, voilà, il va se mettre toute la droite cato in the pocket. Emmanuel Macron a rendez-vous avec le pape. C'est la rencontre du nouveau monde et de l'ancien. Macron va pouvoir disrupter l'Église. Et voilà un aperçu de l'aspect grandiose du mélange quand on disrupte l'Église.
Les prêtres sont bas dans le game bébé, oui les baptêmes c'est notre fierté. On fait la messe avec trop de style, on ajoute du soin dans ton hostie. C'est nous les rois mages des temps modernes, on a même des snaps de la Saint-Vierge. Si t'approches de l'autel, obligé tu danses. Pour la teuf, on n'a pas fait vœu d'abstinence. Au béni, on fait même des
chambres
dans le street. Au béni, au béni.
Quel est le niveau de degré, il faut
ouais,
écouter
exactement,
ça.
Exactement, c'est
le faux ça Charline. Et encore, on n'a pas le temps de passer l'extrait qui dit « Baptisé comme jamais
ah ».
Baptisé, c'est le collectif Golden Moustache, c'est du 3, je vous rassure.
Cru,
je vous rassure. Non, mais on n'est pas à l'abri, ça c'est sûr. Alors, voilà, considéré comme successeur des rois de France, car c'est une tradition. Le président de la République française a lui aussi chanoine d'honneur du Latran. Donc la première chose que vous avez passée par l'esprit, là, Fred de Val, quand vous avez vu ce sujet, non, dites-le nous parce que c'est intéressant.
Non, chanoine d'honneur, mais c'est juste, franchement, on en a autre chose à faire quand même, non ? Enfin, il a autre chose à faire.
Vous avez senti la gêne parce que nous on est très pour ça.
Vous êtes en train de vous couper de toute la jeunesse catholique de France.
Mais pas du tout, parce que Bayard, on est plutôt.
C'est vrai. Voilà. Non, c'est Bayard qui a édité votre livre.
Mais je pense sincèrement qu'il a autre chose à faire que passer. Je sais, personne ne comprend ce que c'est en plus. Qu'est-ce qui
vous chiffonne le plus ? Le fait d'accepter un titre chanoine de Latran, etc., d'aller le chercher ? Ou simplement de voir le pape. Est-ce qu'il y a différents degrés d'acceptation ou de choses diplomatiques qu'il faut faire?
Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est juste pas son endroit. Je vois pas pourquoi. Déjà, je comprends pas c'est quoi ce titre. Et puis en plus, qu'est-ce que ça va lui faire, que ça change. Enfin, franchement.
Une tradition qui date du 15e siècle.
Oui, bah c'est super. Hein,
C'est pas jeune.
Pour vous donner quelques infos, c'est une tradition qui date du 15e, mais qui a été négligée par les présidents de la République jusqu'à René Coty en 57.
Heureusement qu'il y a eu René Coty.
Quand on parle de tradition, donc sous la 5e République, Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac sont allés prendre discrètement possession de leur stalle, c'est comme ça qu'on dit.
Ah oui, il y a un petit truc à récupérer, il y a un petit gadget.
En revanche, Georges Pompidou et François Mitterrand n'ont pas fait le même geste, et Hollande non plus.
Peut-être qu'il l'aura envoyé, je ne sais pas, à Latran. Peut-être un.
Ouais.
Je ne sais pas.
Et quelle est la position des catholiques de France ? Est-ce que dans la croix, ils sont. C'est un peu la fête, c'est la Coupe du Monde. Est-ce que.
Il y a un signe envoyé aux catholiques, ça, c'est d'apaisement. Sûr. C'est-à-dire que la France est assez chatouilleuse sur la laïcité. Donc là, vraiment, vous pensez que ça peut peut-être.
Oh, la question de Belge. Elle avait préparé celle-là de sous la manche. Elle a dit je vais leur rappeler.
Le pays est chatouilleux sur la laïcité. Donc Emmanuel Macron, le président de la République, va faire un geste, forme d'apaisement envers les catholiques.
Mais ils étaient pour.
Ils étaient pas malmenés.
Non. Enfin, puis ils étaient pas en folie non plus. Enfin, il se passe rien. Et que, enfin, tout va bien, en fait. Pourquoi? Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il va passer une journée là-bas, alors que Aquarius à ma gauche. Enfin, voilà, il y a d'autres choses à faire, quoi.
Ben non, mais il fait du clientélisme, quoi. C'est un peu classique, quoi. Ouais.
Oui, ça nous surprend pas.
Il va récupérer.
Il y a un port au Vatican pour l'accueillir ou comment
un port PORT, ouais. PORC, ouais.
Ça dit quelques cardinaux, je pense.
On a bien compris que on en avait vraiment rien à faire. Hein. C'est quand même fou ça. Rocato Madraogo, c'est quelque chose de plus intéressant à nous dire sans doute, non?
Pas tant que ça. Je passe un disque. Non, je ne sais pas. Oui.
Non, c'est votre chronique,
Rocata.
Ah oui.
Et voilà.
Mais bien sûr.
Mais pourquoi je reçois de l'argent tout le temps?
Je fais des chroniques en fait. Tous les mois, j'ai de l'argent sur mon compte et je ne sais même pas d'où ça vient. Bon, bref. Alors, mes amis.
Vous voulez une petite tisane, un petit café?
Vous voulez du banania? Parce qu'on peut enfiler un petit peu, hein, si on n'a pas la forme.
Ah, mes amis, mon oncle est désespéré. Il est triste. Il m'a dit que le monde va mal, que la vie n'est plus ce qu'elle était. Il m'a dit qu'il n'a plus foi en l'humanité et que heureusement son pancréas est bien accroché. Vous l'avez saisi ? Il n'a plus foi. Mais heureusement, il a son pancréas bien accroché. Le jeu de mon couli, quoi.
Ça va, je sais. Excellent.
Oui, moi je fais ce que je peux. Hein. J'observe Alex tous les jours, je l'observe et j'apprends, mais le chemin est long et ardu sur le jeu de mots parfait. Revenons à mon tonton. Hier, il m'a dit, ma fille, le monde dans lequel on vit actuellement est triste comme un cafard. Les hommes n'ont plus d'égards, les uns pour les autres. L'entraide n'existe plus. Avant, au village, quand il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide, il faisait le sosoga. Bon, j'ai traduit pour ceux qui ne parlent toujours pas le moré, pourtant ça fait plus d'un an que je suis là. Le sosoga, c'est des travaux d'intérêt commun. Ça consiste à demander à ton entourage, tes voisins, tes amis, les gens du village, de l'aide en échange de quoi tu prépares un bon festin pour tout le monde. Bon, admettons, Charline, que vous ayez besoin de refaire le toit de votre maison.
De déménager.
Voilà. Non, supposons refaire le toit de sa maison. Bon, vous faites le tour du studio à la recherche des volontaires. Immédiatement, Alex Vizorek, bon, Juliette, Guillaume Meurice et moi-même, nous arrivons pour vous prêter main forte. Et à la fin du chantier, vous ne versez aucun salaire. Pas un seul copec, rien, nada. Par contre, comme à la dernière page des albums d'Axéris, tout doit se finir autour d'un bon banquet. Vous nous préparez un bon repas. Un bon poulet bicyclette et la bière de mille, ou si vous préférez, la jupilère et les frites. Bon, donc tonton se lamentait en ressassant le passé qui était mieux avant. Tu vois ma fille, avant, quand quelqu'un arrivait, n'arrivait pas à cultiver son champ, il demandait de l'aide au village, il préparait un bon repas, de la bière de mille et il conviait tout le village à ce festin. Mais s'assurait d'abord que le boulot était bien fait avant de sortir le repas. Et après, c'était la bombance. Oui, tonton, c'était bien avant. Hein? À qui le dis-tu, ma fille? Tu vois, avant, une personne qui n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins de sa famille. Oui, tonton, je sais. Il cuisinait un bon repas, préparait de la bière de mille et il conviait tout le village à... Non, ma fille, tu vois que tu n'écoutes jamais ce qu'on te dit. Tout le village organisait une quête et quelqu'un allait acheter des sacs de riz de mille, puis attendait la nuit pour les déposer devant la cour de la personne discrètement. Celle-ci récupérait les vivres le lendemain. Tout était anonyme et comme ça, il n'avait pas à être gêné quand il rencontrait quelqu'un sur sa route. Ah, mais tonton, il existe encore des gens bons. Jambon.
Ça progresse.
Oui, c'est vrai, ma fille. Mais aujourd'hui, avec vos réseaux sociaux, là, si quelqu'un vient de poser un sac de mille devant ta cour, il va prendre un selfie, le mettre sur Facebook et c'est plus seulement à lui que tu es redevable, mais à tous les gens qui vont liker sa photo. Parfois, je demande à mon oncle, mais dis tonton, si c'était mieux avant, est-ce que ça veut dire que ça sera pire après? Et tonton, qui est un intellectuel et qui aime bien citer Georges Wolinski, ma fille, heureusement que le monde va mal. Je n'aurais pas supporté d'aller mal dans un monde qui va bien. Alors aujourd'hui, mes chers auditeurs, mes chers amis, Alex Vizorek, Frédéric Fromin, Pablo Mira et moi-même, nous allons jouer notre spectacle au Festival d'Avignon. Et on vous propose de faire un sosoga. Annoncez nos spectacles sur tous vos réseaux sociaux et en retour, nous vous proposons un grand banquet à la rentrée. Bon, la date et l'heure et le lieu va être communiqué ultérieurement.
Je ferai des gaufres.
Eh bien, nous mettrons les endroits où vous jouez tous, bien sûr, sur notre page Facebook de Par Jupiter, pour que vous puissiez, si vous passez par Avignon, aller voir tout le monde. Merci Rukyata. Vous jouez où ça?
Au Théâtre du Train Bleu.
Au Théâtre du Train Bleu, très bien. Merci Rukyata Ouedraogo. On est en compagnie de Léa Frédéval, jeune réalisatrice du film Les Affamés, avec notamment Louane. Et la lutte continue en chanson avec Delgrès, qui tire son nom de Louis Delgrès, figure de la lutte contre l'esclavage dans les Antilles françaises. Il chante Monsieur Président, en leur ontant l'oreille. Parce qu'on est en République, bordel de merde.
Monsieur Président, ou intelligent, faut expliquer moi ça qui a passé où. Monsieur Président, c'est le cas gouverneur. C'est chanté couille, mais moi pour tes balles, moi faire la confiance, faut expliquer moi, ça peut faire bon moi. Moi la can goumé.
écoutez France Inter par Jupiter. C'est Léa Frédéval, notre invitée. Elle réalise Les Affamés qui sera en salle mercredi. Et il y a aussi Guillaume Meurice,
oui, c'est moi.
Qui a établi une liaison avec la Méditerranée. Alors.
Ouais, bah, c'est la dernière semaine avant les vacances, alors moi je me disais c'est l'occasion de vous donner des petits conseils de bons plans, voyage pour l'été. Alors je vous le dis, il y a des destinations à éviter, le Burkina Faso par exemple, voilà, on a un échantillon ici, c'est pas terrible. Ça fait pleuvoir avec des queues de bœuf, mais bon, à part citer Evelyne Delia, l'intérêt est assez limité. Puis je vais vous dire, pour tout ce qui est benchmarking de pays, vous voyez directement avec les réfugiés, moi je vais m'intéresser aujourd'hui aux croisières en Méditerranée, grosse tendance en ce moment au départ de la Libye, très sympa. J'ai d'ailleurs appelé la principale compagnie Médecins Sans Frontières, qui avec l'agence de voyage SOS Méditerranée a un super bateau qui a un petit peu fait le buzz ces derniers temps, l'Aquarius. Et j'ai appelé ce matin Aloïs. Alors il est chef de mission sur l'Aquarius, c'est l'équivalent si vous voulez de gentil organisateur. Voilà, avec moins de MST, mais c'est un petit peu la même chose. Alors il était en pleine mer sur le bateau, d'où le son, vous allez voir qu'il résonne un peu. C'est vrai qu'on a l'impression d'être un petit peu dans la cavité cérébrale d'Eric Ciotti. Alors parlons d'abord des atouts de ces croisières sur l'Aquarius avec Aloïs. Premièrement, qu'est-ce qu'on y mange ?
Bon, malheureusement, la cuisine est un petit peu limitée. Ah. C'est à base de repas lyophilisés, hein, à peu près tous les jours le même repas. Quand l'Italie nous demande de rester à la dérive pendant 48 heures, on est un peu limité. Mais heureusement, ils nous amènent quelques fruits et du pain pour nourrir 600 personnes.
C'est sympa. Je trouve ça c'est sympa quand même de la part de l'Italie, des fruits et du pain. C'est vrai que l'Italie, c'est un pays, je le signale, qui prend soin de la clientèle de l'Aquarius. C'est vrai que par exemple, on est un peu triste quand il y a une croisière qui se termine. Et ben, l'Italie, hop, il t'offre des jours supplémentaires. Voilà, ça c'est sympa. Le chef de l'agence de voyage là-bas, très cool, Benito Salvini. Non, je sais plus le prénom. Matteo Mengele, non, je sais plus. Enfin bref, c'est un type qui est voilà toujours prêt à tendre la main, même le bras. Hein, il tend le bras droit régulièrement, toujours bien tendu. Alors évidemment, on ne va pas éluder la question. Juliette s'impatiente. On a parlé de bouffe, d'accord. Mais parlons bien sûr du bar. Hein, et la petite déception quand même.
Il n'y a pas d'alcool sur le bateau.
Il n'y a pas une petite bouteille qui traîne même dans la cabine du capitaine, non, rien du tout.
Ah, c'était une croisière sans alcool là. Mais sans alcool, c'est bien connu, la fête est plus folle.
Mais non. On a déjà essayé des fêtes France Inter sans alcool, par exemple. Catastrophe.
Grosse déception. Hein,
quand t'es à la 8e tourtelle, que t'es avec Dominique Seux, qui te raconte que ses premiers émois sexuels, c'est Margaret Thatcher, je te jure, une bonne vodka, ça fait du bien. Bon, alors, voyons voir quand même les conditions de voyage.
Il n'y a pas beaucoup de place pour s'allonger sur le pont. Ils sont souvent exposés aux éléments, donc il y a régulièrement des vagues qui viennent les rafraîchir en pleine nuit, mais ils se plaignent pas.
La clientèle ne se plaint pas.
Ils sont vraiment patients et d'une résilience assez incroyable.
Bon, conditions sommaires, mais clientèle contente. Hein. C'est quand même pas mal de le préciser parce que c'est vrai que sur TripAdvisor, c'est toujours ceux qui sont pas contents qui s'expriment. Hein, et gna 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 gna, les Finkielkraut du commentaire, là, ceux à qui on a envie de dire taisez-vous. Ça me fait du bien, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Bon, alors, a priori d'ailleurs, Finky ne viendra pas sur le bateau, hein, et c'est dommage, parce que c'est vrai que d'habitude sur les croisières, il y a des conférences avec des personnalités, ça, je trouve bien. Ça sympa. Alors par exemple, est-ce qu'on a eu une chance de croiser Gérard Collomb sur l'Aquarius ?
Gérard Collomb, on l'a pas vu encore, mais il est le bienvenu. Il y a des activités assez ludiques, c'est de sortir des personnes qui se noient de l'eau. Ils pourraient se rendre compte un petit peu de la difficulté que c'est que d'être naufragé dans la mer Méditerranée.
Bah oui, alors Gégé, qu'est-ce qu'il fout ? Ils ont prévu des petites activités ludiques, c'est sympa, et puis ça changerait un peu, voilà, ça te changerait de ton groupe d'amitié bienveillance et lacrymo. Moi, je trouve que ça lui ferait du bien, voilà, à notre bouteflika à nous. Allez, Gégé, tiens, pour te convaincre, un autre argument.
C'est la croisière idéale pour des gens qui aiment marchander, parce qu'aujourd'hui, le cours du naufragé en mer Méditerranée, il est nul, hein. Les vies humaines, elles sont bradées en faveur d'un politique opportuniste et détestable. Donc, pour des bons marchands, des gens qui aiment marchander, c'est quand même une croisière, J'irais une croisière inouïe, quoi.
Ben oui, voilà, c'est une croisière inouïe pour les gens qui aiment marchander. Parce que je rappelle que la libre circulation, les accords bilatéraux, tout ça, c'est pour le pognon. Hein, quand on parle des valeurs de la République, c'est la valeur marchande. Quand on parle de la devise de la France, c'est pas liberté, égalité, fraternité, c'est l'euro. Voilà, souvenez-vous, hein, le podcast préféré de l'Élysée, c'est Jean-Yves Courtial. Hein, c'est pas les trucs de gauchias que vous faites. D'accord? N'oubliez pas. Alors, pour finir, quand même, par souci d'honnêteté, il faut parler de la concurrence. Il y a la croisière libyenne, on la connaît sous l'appellation garde-côte. Alors, j'ai quand même demandé à Aloïs ce qu'il en pensait.
La croisière libyenne, ils sont pas équipés de gilets de sauvetage, par exemple, ou de moyens de secours tels qu'on a. Ils ont pas d'équipe médicale. Donc, bon, c'est une croisière un petit peu différente, de moindre qualité à nos yeux, mais pas aux yeux de l'Union européenne.
Oui, évidemment, parce que l'Union européenne finance hein, ces fameux garde-côtes libyens qui ont la particularité très sympathique de ramener les passagers dans les centres de détention en Libye, où ils pourront expérimenter l'esclavage, la torture, la faim, la soif, et tout ça donc alimenté avec vos impôts. Voilà, c'est sympa. Mmh. Donc, si ça vous chagrine, je ne peux que vous encourager à donner directement à SOS Méditerranée. Hein, c'est déductible en grande partie au niveau fiscal. Et puis, c'est toujours ça qui ira pas dans la construction d'une piscine au fort de Brégançon, par exemple, avec vue sur ce grand cimetière moderne qu'on appelle la mer Méditerranée.
Merci Guillaume Meurice. On rappelle sosméditerranée.fr.
C'est ça.
Et on embrasse tout l'équipage de l'Aquarius et puis tous les gens qui travaillent pour Médecins Sans Frontières autour du monde et qui parfois ont la folie de nous écouter en podcast. Et oui, bien sûr.
C'est dire s'ils vont mal.
C'est vrai. Ils étaient situés où l'Aquarius ce matin quand vous
là,
les avez contactés?
Ils sont en pleine mer. Je ne peux pas vous dire la position, mais ils sont partis de Valence il y a 4 jours.
Ah oui, voilà.
Ils sont repartis. Donc,
très bien. Allez, on continue 17h43 par Jupiter sur France Inter. À venir, Juliette Arnaud et son choix littéraire. Nous sommes toujours en compagnie de Léa Frédéval, réalisatrice du film Les Affamés qui sort en salle mercredi avec notamment Louane, mais aussi Agnès Hurstel, Léon Garel, Pierre-François Martin Laval, Louane de Petrini. Et on va aborder ce thème qui est connecte au film.
Ah bah carrément.
Bah oui, bien sûr. Les politiques demandent aux jeunes de s'engager, mais quand les jeunes s'expriment, c'est généralement pas dans le sens des politiques. Et donc là, on leur rappelle de passer leur diplôme d'abord et de se nourrir ensuite. Dans le Tarn, des collégiens ont dû se rendre devant la justice à cause du contenu de leur journal satirique qui étriait les politiques, mais aussi les professeurs. Alors, est-ce que les jeunes ont vraiment le droit de s'exprimer à la fin ?
Rien de mieux à foutre que ces après-midi de dégénérer à 3 mois de ton bac. Ça croit que tu es amoureux de l'échec.
Je m'en fous du bac, c'est du rock.
Oui, bien sûr, allez, évite-moi ce genre de réflexion stupide. À moins que tu ne tiennes à ce que j'aille jouer des maracas avec ton groupe, histoire de rendre le nom de pilier encore un peu plus ridicule.
Très drôle, très fin.
Et puis j'aimerais bien que tu cesses de nous considérer ta mère et moi comme des vieux cons indécrottables. Si tu continues sur cette pente, tu finiras comme un clochard drogué.
C'est pas parce qu'on n'a pas envie de vivre une vie d'arracheur de dents bourgeois qu'on vit forcément comme un clochard.
Je te rappelle que tu vis aux frais de l'arracheur de dents.
C'est Jacques-François, notamment dans Mes meilleurs copains, le film de Jean-Marie Poiré. Nous avons choisi cet article paru sur Slate qui s'intitule « Une société qui bâillonne sa jeunesse renonce à éduquer ». Le sens de l'article, c'est que la liberté d'expression et le fait que les jeunes s'expriment est très important et ça participe de leur éducation aussi, donc il faut les encourager dans ce sens. Alors Léa Frédéval, on est vraiment dans le thème du film. La jeune héroïne qui est incarnée par Louane, elle veut se faire entendre, alors elle commence par fédérer les jeunes de sa colocation, elle prépare une charte, elle utilise les réseaux sociaux, la vidéo, etc. C'est comme ça qu'on se fait entendre quand on est jeune, où il y a plein de moyens, il y en a un qui est essentiel, est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on est entendu?
Beaucoup de questions. Alors je ne sais pas. Choisissez-en
une au hasard.
Je ne sais pas s'il y a un moyen, je pense que tout moyen d'expression est bon à prendre. Par contre, moi, quand j'ai lu l'article, j'ai été très étonnée parce que, bon, je sais qu'on vit dans une société très paradoxale, on peut même pas dire hypocrite d'ailleurs, parce que tous les 5 ans, on se dit « Oh là là, les jeunes ne votent plus, au secours les jeunes ». Tous les 5 ans, on essaye de ramener les jeunes dans les urnes. Mais quand il s'exprime, voilà ce qui se passe. Donc effectivement, c'est pour ça que l'objectif du film, c'est pas ou de créer une révolution, ou c'est plus d'être chez les gens, de pouvoir créer du lien en sortant du film, que les parents, les jeunes, leurs grands-parents, que tous ces gens-là puissent discuter entre eux et puissent un peu échanger, parce que je pense qu'il n'y aura pas de deuxième mai 68 comme on l'a connu, comme ils l'ont connu il y a 50 ans, et que ça peut se passer par les réseaux. C'est plus à l'intérieur pour moi que ça se passe, c'est plus un manque de positionnement. On parlait de religion tout à l'heure, on est quand même une génération qui est en grand manque d'idéologie. On n'est plus affilié à la politique, on n'est plus affilié à la religion, donc une espèce de flou comme ça. Et effectivement, comme en plus c'est très difficile d'avoir confiance en soi dans une société où on nous dit qu'on va pas y arriver. Faut bien trouver quelque chose quelque part. Donc.
Il y a quand même eu les jeunes avec Juppé.
Oui, bien sûr.
C'était quand même une ouverture.
Et la manière dont le président de la République s'est adressé aux jeunes qui l'interpellaient en l'appelant Manu, il y a aussi Gérard Collomb qui dit quand on est mineur, on n'occupe pas son lycée, on va pas dans les manifs qui peuvent dégénérer. Là, il y a deux attitudes qui sont de quelle nature selon vous?
Moi, je pense que c'est juste des gens qui n'ont pas vécu ceux à qui ils parlent. C'est-à-dire que c'est ça le problème aussi.
C'est-à-dire que pour Gérard, c'est loin, hein, faut le savoir.
Oui, mais c'est surtout que voilà, on est sur des gens. on est géré par des gens qui ne savent pas ce que c'est que remplir un dossier de CAF ou un dossier au Pôle emploi.
Et pourtant, la toute de notre président de la République, semble-t-il, c'est
sa jeunesse.
C'est sa jeunesse.
Oui, mais il n'empêche.
Mm-hmm. Il était au club théâtre. Hein.
Bah oui,
je l'ai bien vu dans le documentaire sur Brigitte.
Non, mais on oublie vite. Moi, je vois, c'est très intéressant parce que j'ai des gens en avant-première, des adultes confirmés, comme dirait Loane, qui nous disent merci parce que j'avais oublié, en fait. J'avais oublié, je mets une pression de dingue à mes enfants, mais j'ai vécu ça et j'ai déjà oublié. Et en fait, visiblement, Macron, il a oublié très très vite, hein, s'il l'a vécu. Mais effectivement, c'est très compliqué et c'est pour ça aussi que le film vise à ce que soit on se rappelle, soit on prenne conscience, mais tout ça pour créer de l'échange et pour que les jeunes aussi se disent on n'est pas tout seul. Mm-hmm. Il y en a plein d'autres. Et moi, c'est les retours que j'ai beaucoup. Ça me fait du bien de lire ce que le livre ou de commencer à voir la bande-annonce ou en avant-première parce que je me sens moins seule à vivre mon truc.
Et puis vous êtes jeune auteur, vous avez été publié à 24 ans,
22.
Vous avez fait votre film à 26 à peu près.
J'ai tourné à 26. Ouais.
Et voilà. Et vous n'êtes pas la fille de François Pinault, donc quoi on peut y arriver. Et
ça aussi c'est clairement le moi aussi c'est ce que je voulais faire passer, c'est que c'est possible. Et pourtant j'ai d'abord suivi ce qu'on m'a demandé de suivre. J'ai fait des études pour avoir des diplômes, pour pas avoir de travail
et des petits boulots.
Et oh là là.
Et vous n'êtes pas la fille d'une dynastie du cinéma.
Ah
donc,
non.
Donc voilà, on peut y arriver.
Bah, votre oncle Bernard Arnault vous a quand même un petit peu.
Un petit peu, oui, c'est vrai. Ouais.
Bah justement, il y a sa nièce, Juliette,
oui.
Qui va faire une chronique.
Très bonne transition.
Alors, il y a longtemps, c'était en 2003, Diams, cœur, tu nous manques, revendiquait de n'être ni une bombe latine, ni une blonde platine DJ. Oh là 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 là, comme
on
elle
est,
avait.
On était jeunes,
on était jeunes. On était déjà, comme elle avait raison de chanter ça, Diams. Voici l'histoire aujourd'hui de la première blonde platine. Platine, c'est le livre d'aujourd'hui, c'est l'histoire de l'actrice Jean Harlow. Je suis sûre que ça dit pas grand-chose à grand monde. J'espère que ça vous donnera envie d'aller voir des films avec elle. Jean Harlow, c'est l'actrice qui inspira Marilyn Monroe, capillairement déjà. Marilyn, au départ, était châtain, mais Jean Harlow était une blonde, très très blonde, les cheveux pratiquement blancs. Et la mère de Marilyn, qui était aussi une grande admiratrice de Jean Harlow, lui a d'ailleurs donné à Marilyn, comme deuxième prénom, Jean, Norma Jean. Voilà. Les ressemblances ne cessent pas là. Elles ont eu des enfances pas rigolotes toutes les deux, des carrières incendiaires et incendiées toutes les deux. Par ailleurs, elles ne sont pas parvenues ni l'une ni l'autre à avoir des enfants. Et Clark Gable fut leur dernier partenaire à toutes les deux. Enfin, Marilyn Monroe meurt à 32 ans. C'est jeune. Jean Harlow n'aura pas cette chance. Elle tire sa révérence à 26. D'une infection rénale. Causée par les coups quasi fatals portés par un mari impuissant. Qui de honte se suicida derrière, une infection rénale non soignée parce que sa toute puissante mère ne croyait pas à la médecine. On est d'accord, décidément, cette Jean Harlow, elle aura eu toutes les chances. Pourquoi s'intéresser à elle? Pourquoi ce livre? Et pourquoi lire ce livre? Pourquoi s'intéresser à cette jolie poupée cassée qui prenait la lumière comme personne? Cette blonde originelle qui n'est ni la Garbo, ni la Dietrich, ni la Monroe. Pourquoi prendre le temps de se pencher sur le destin de cet enfant dont plus grand monde, en 2018, se souvient vraiment? Pour cette raison, déjà. Et puis parce qu'il y a la citation de Gilles Deleuze qui dit que la majorité c'est personne et la minorité c'est tout le monde. Et enfin parce que Régine de Tambel, l'auteur, raconte cette histoire avec grâce. Pas comme une bio insipide et factuelle dont on se fout. C'est une évocation d'un temps, les années 20 et 30, d'un endroit, Hollywood, d'une industrie vampire, d'une femme. Et avec aux manettes une écrivaine, pas une historienne, pas une journaliste. Un récit court mais dense, charnel, poétique, ému et émouvant. Et qui part d'un axiome très simple, d'une carrière dans le cinéma, on ne revient jamais en un seul morceau. On imaginait tous bien que Weinstein n'avait pas inventé le harcèlement sexuel et le viol comme hobby à Hollywood. C'est aussi couillon que de penser que Carrie Vielle a inventé la magouille à la bourse. Le livre le confirme. Jean Harlow arrive pour la grande révolution du parlant, mais les bonnes vieilles habitudes perdurent. Les patrons de studios au pouvoir hallucinant comme Louis B. Mayer gardent les mêmes formules comme, je le cite, « Ici, vous n'avez pas besoin de contrat. Tant que je serai vivant, vous ferez partie de la famille. Nous formons la famille MGM. » Oh, c'est rigolo, elle fonctionne encore cette phrase-là. Les actrices sont les têtes de gondole, alors il s'agit de plaire, alors on leur écrit des répliques, pas seulement pour jouer, pour les interviews également. Ah oui, on prend pas de risques. Et on cherche parfois les meilleurs écrivains de l'époque qui tentent de gagner de leur vie à Hollywood, de le faire. Alors c'est Faulkner parfois, c'est Fitzgerald, ça paraît complètement insensé mais c'est vrai. Alors ils écrivent des trucs comme ça. Les journalistes demandent « Mademoiselle Harlow, comment aimez-vous vous réveiller le matin ?» Et Jean de répondre « J'aime me réveiller avec un nouvel homme. » Oh là. Le journaliste. On dit que vous n'êtes pas vraiment une actrice. Elle, quand on plaît au public, on n'a pas vraiment besoin d'être une actrice. Le journaliste. Bah alors pourquoi le public vous aime-t-il? Elle, parce que je ne porte pas de soutien-gorge. Portez-vous un soutien-gorge aujourd'hui? Voilà une question de myope.
Punchline.
Des pantins dont tout le monde régit la vie, sauf elle. Les écrivains picolent pour oublier, s'étourdissent de mille manières, les actrices aussi. Régine de Tambal, elle raconte son visionnage à elle du dernier film de Baby Jean. Le film s'appelle Saratoga, ça sera le dernier. Celui où on l'a fait bosser 15 heures par jour, à la Schlag, alors qu'elle est en train de mourir, empoisonnée par son urée. Régine écrit « Saratoga n'est qu'une bluette, mais j'ai regardé ces images comme un reportage de guerre. Je crois qu'il n'y a aucun bon film sur la douleur, sinon Saratoga, qui ne l'a pas fait exprès. » Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, magnifique. Quelles sont les références de l'ouvrage?
Alors, ça s'appelle « Platine », comme les cheveux de Jean Harlow. Elle, c'est Régine de Tambel, je pense, et c'est chez Actes Sud.
Merci beaucoup, Juju. Ça y est, en France, les trottinettes en libre-service électrique débarquent. Allez, mode d'emploi, bim.
L'usager chargé de paquets ou simplement fatigué sera loisible, si le cœur lui en désire, de se laisser emporter en toute sécurité jusqu'à destination. Mais attention, ce confortable roulis et ce sentiment léger de rêverie peuvent être fataux.
Faux contact, bien sûr. Alors, on a une petite minute pour vous demander votre réaction. Moi, j'ai envie de dire, alors les jeunes, vous êtes contents d'avoir des trottinettes électriques en libre-service?
C'est à moi. Hein.
Oui, c'est à vous que je demande.
Alors, j'ai déjà mis du temps à comprendre qu'un adulte pouvait faire de la trottinette.
Ah, quand
c'est-à-dire
même.
Déjà, j'ai accepté, j'ai mis du temps. Ouais, le costard-cravate qui passe devant en trottinette, ça a toujours été étrange. Mais il y a un truc, j'ai lu l'article, hein, par contre, personne ne parle du vol des trous. Parce que moi, j'habite dans un quartier populaire.
On peut les géolocaliser, j'imagine.
Oui, mais les Vélib aussi. Et pourtant, il y en a beaucoup qui ont disparu. Ouais. Donc, comment on fait pour se protéger du vol de trottinettes en location?
Aujourd'hui, où les trottinettes arrivent, c'est une start-up américaine qui les installe à Paris. C'est le jour où on débranche Autolib et où Vélib se noie. Donc on va attendre de voir couler les trottinettes au fond de la Seine tranquillement. Mais en attendant, on va faire un sketch.
C'est l'heure du sketch. En fin d'émission, évidemment, on propose à l'invité un sketch, un rôle. Je me suis dit que ça faisait longtemps que vous n'aviez plus été stagiaire. Ça repart. On refait un petit stage du côté du MEDEF.
Oh oui.
Avec le bras droit. Notre ami Gattaz.
Pierre Gattaz s'en va bientôt.
Pierre Gattaz s'en va bientôt. Et Charline Vanhoenacker, son bras droit, lui organise le petit pot de départ. On voit comment ça se passe entre elle et sa stagiaire.
Dites donc, la stagiaire, là, c'est quoi ça?
Des chips, ça pose un problème?
Des quoi?
Des chips, c'est des rondelles de pommes de terre qu'on sert aux apéritifs.
Vous croyez vraiment que les gens du MEDEF vont manger votre chips, là?
Vous voulez dire comme n'importe quel pauvre?
C'est-à-dire que c'est le pot de départ de Pierre Gattaz, quand même.
Ah zut, mon dernier job, c'était au Resto du Cœur.
Ah oh là 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 là, c'est stagiaire, là. Heureusement qu'on ne vous paye pas. Hein.
J'imagine que vous allez aussi gueuler pour la binouze.
La binouze, qu'est-ce que c'est?
C'est une partouze où il n'y a que des billes.
Ah mon Dieu, mais quelle horreur!
Mais non, Binou, c'est de la bière.
Oh là là, mais enfin de la bière, vous n'y pensez pas, ma petite. Du champagne, mademoiselle, au MEDEF, on boit du champagne.
Mais ça va coûter un pognon dingue.
Mais on s'en fout, on est blindés. Bon, vous en avez tout dans les cartons d'invite.
Ne vous inquiétez pas, j'ai bien pensé à inviter Macron.
Emmanuel Macron, où ça? Où ça?
Bravo la stagiaire. Hein.
Qu'est-ce que j'ai encore fait?
Mais voyez pas dans quel état d'excitation vous mettez notre Pierrot Gattaz.
Il est où? Je dois lui dire qu'il est beau, mon Manu, il est beau.
Non, vous l'appelez Monsieur le Président. Président ou monsieur.
Mais c'est qu'elle fait sa petite insolente, Miss Photocopie, là.
Attendez, qui est cette petite personne ridicule?
Cette petite personne est employée comme esclave.
Ah, formidable, on n'a rien inventé de mieux que l'esclavage.
Mais quand j'ai payé, ça vous dit rien?
Non, j'aime ni les congés, ni les payés.
Vous avez pensé à préparer un petit discours, Monsieur Gattaz?
Tout à fait. Alors, chers entrepreneurs, le MEDEF a gagné le combat des idées.
Comme c'est beau.
Tais-toi, Spartacus. Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires.
C'est la lutte finale.
Pardon?
Ça vous plaît pas?
Ah non, ça tu ne peux pas, hein. Tu es là dans une cérémonie officielle, ma petite.
Bah justement, c'est la musique officielle que j'ai choisie.
Écoute-moi, alors le jour où tu veux faire la révolution, t'apprends d'abord à avoir un diplôme, te nourrir toi-même, ok?
Très bien, je me nourrirai de chips.
De quoi?
Apparemment, ce sont des rondelles de pommes de terre qui seraient frites comme ça, extrêmement grasses, dégueulasses.
Il est où, Manu?
Ça va encore nous plomber le trou de la sécu. Les jeunes vont devenir obèses. Plus ils sont obèses, moins ils travaillent. Après, il y a la trottinette électrique qui plie. On la retrouve dans la Seine. C'est le bordel. C'est la fin de la civilisation.
Où est Manu? Où est Manu?
Pardon,
est Manu,
le sketch est fini. Pardon, ah ouais, je m'emballe.
Je n'avais pas écrit cette fin de sketch. C'est pas
merci Léa Frédéval d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle que votre film engagé et sur la jeunesse, intitulé Les Affamés, sort en salle mercredi. Qu'il est incarné par une jolie troupe de jeunes avec en chef-taine Louane. Il y a aussi François Debloc, Marc Jarousseau, Nina Mello, Rabanaï Toufella, Bruno Sanchez, Pierre-François Martin Laval, Anne de Petrini. Très très beau film qu'on peut voir donc dès mercredi en salle.
Si je peux dire quelque chose, c'est une comédie qui a du sens et oui, c'est important de le dire.
Et bien on voilà, rit le message est passé. On se retrouve demain avec Alix Poisson. Voici le mot de la fin qu'on laisse à Manu Macron qui s'apprête à rencontrer le pape.
Nous sommes sauvés ! Je vois le Christ !